Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Le son, dont la musique, est vraiment un rebond. Je m'en sers comme d'un langage à part entière, c'est comme des mots.
Le musée des sons.
Bonjour et bienvenue dans le musée des sons. Nous sommes toutes et tous émus par des rythmes, transportés par des mélodies, emportés par un refrain familier. Il y a des moments de nos vies auxquels nous pourrions parfois associer une bande originale, tant certaines musiques peuvent accompagner notre quotidien et nous renvoyer à des souvenirs et des sensations bien précises. D'ailleurs, plusieurs études scientifiques ont démontré que la musique influait sur notre psychisme et nos comportements et nous apportait un état de bien-être et des émotions positives. Elle pouvait même aller jusqu'à réduire notre hypertension artérielle. Bref, la musique titille nos sens et produit incontestablement des effets sur nous. Mais comment raconter la musique ? Rebecca Manzoni est journaliste, chroniqueuse musicale et productrice de radio. Depuis 2013, elle parle de musique à l'antenne de France Inter. Elle décortique les tubes les plus mythiques en traversant les genres et les époques. Passionnée par le son et la radio, elle raconte la musique en faisant chanter les mots, ses mots. Aujourd'hui, on parle de radio, de jingle et de musique qui nous bouleverse. Bienvenue dans le musée des sons de Rebecca Manzoni.
Je m'appelle Rebecca Manzoni, je fais de la radio depuis très longtemps, sur une radio de service public qui s'appelle France Inter, et depuis quelques années, j'y parle de musique. Et présentement, je fabrique une chronique hebdomadaire dans la matinale de France Inter, le vendredi, à 7h22, qui s'appelle Tube & Co, où je soulève le capot d'un tube. Et le samedi, sur France Inter toujours, à 11h, je fabrique une émission d'une heure qui s'appelle Pop & Co. La façon dont je parle de musique dépend très très étroitement de mon amour de la radio et du son. La façon que j'ai d'écrire, ça c'est vraiment ma passion première. Après j'adore la musique aussi évidemment, mais c'est un support de récit radiophonique évidemment génial. Mais j'ai aussi à la radio fait des interviews d'une heure chez les gens, j'ai fait une émission de cinéma, j'ai parlé beaucoup de bande dessinée. Je pense que la façon dont je parle de musique est très très liée à ma sensibilité radiophonique. En fait, je pense pas que ça s'apprenne, parce qu'on a tous une façon très différente de vivre la musique. On se fait tous des films différents à l'écoute d'une chanson. Et je trouve que c'est ça qui détermine l'écriture, en fait. Moi, j'ai une relation au son qui est extrêmement imagée. Même quand j'écoute une musique, je me fais vraiment un film. J'ai une relation au son qui est imagée autant pour la musique que pour la radio. C'est ce qui m'a donné envie d'en faire, d'ailleurs. C'est-à-dire à écouter la radio ou à saigner des disques. Parce qu'on est dans un film très intime, très personnel, on se plante le décor. C'est d'ailleurs aussi pour ça que j'adore les BO. Pour moi, c'est indissociable. Donc oui, j'ai une mémoire du son, je crois, qui est aussi exigeante que celle des images. Ça a aiguisé une sensibilité, bien sûr, au son, aux voix, aux gens qui posent ou pas quand ils parlent. Au montage, ma sensibilité s'est copieusement aiguisée pour dater selon comment ça sonne. On sait à quelle époque on est. J'adore ça d'ailleurs. J'adore les jingles, les vieilles sonneries de téléphone. J'adore ça. J'ai forcément une oreille plus aiguisée à faire de la radio. Je me souviens quand j'ai commencé à France Inter, je m'étais fait convoquer, parce que c'était vraiment de ça dont il s'agissait, par le directeur de programme de l'époque, qui s'appelait Bernard Chérez, à qui je dois beaucoup. Et il a commencé à me parler de ma voix. Et en gros, il était en train de me dire que j'avais une voix de merde, que j'avais pas la voix assez grave ou quelque chose comme ça. Ou peut-être qu'elle était trop précieuse. Et j'étais mortifiée de ça. Ça m'avait vraiment atteint. Donc ça m'a fait vachement réfléchir. Je me suis dit, attends, faut que tu prennes des cours de chant. Alors je me suis mise à chanter. C'était très agréable, mais je suis pas sûre que ça m'a apporté grand chose. En revanche, je pense que j'avais toujours ce problème où, avec le stress, j'ai la voix qui peut monter d'un ton. Donc c'est pas tant un travail que d'avoir le réflexe de dire pose ta voix. Et je vis avec quelqu'un qui a les oreilles extrêmement affûtées, qui va me dire, même dans la vie, par exemple, pose ta voix. Si par exemple il y a énormément de volume sonore, je vais avoir le tendance à forcer. Et ça peut être assez désagréable au fond. Donc c'est pas tant un travail que d'avoir une sorte de réflexe qui est devenu quasiment pavlovien de poser sa voix. La voix, ça raconte tellement tout. Je pense que quand j'avais une voix que Bernard Chérez me disait merdique, c'était moi. Et que quand j'ai essayé de la poser davantage, c'est moi aussi, en fait. Voilà. Ça apprend à se connaître aussi, je crois. C'est sûr même. L'écriture radiophonique, c'est vraiment une passion pour moi. Le son, dont la musique, est vraiment un rebond. Je m'en sers comme d'un langage à part entière du son, en fait. C'est comme des mots. C'est-à-dire que l'émission que je fabrique le samedi matin, par exemple, s'intitule Pop & Co. Il y a toute une partie, et d'ailleurs parfois c'est l'émission en entier, mais il y a un récit. Donc c'est une histoire où je vous embarque dans l'histoire du slow, par exemple. Et je vais me servir des sons d'ambiance, de la musique évidemment, des interviews, des archives. Je vais me servir de toute cette masse sonore pour écrire. Mais ça va être un langage à part entière pour moi. C'est pas que de l'illustration. J'écris vraiment en fonction de ça. Donc j'espère que c'est ce qui fait ma singularité. Et c'est aussi ce qui peut me compliquer la vie, parce que du coup, il faut que je monte toutes les archives. Enfin, je travaille avec deux personnes en très très étroite collaboration, avec une femme qui s'appelle Ilinka Negulesco, qui cherche toutes les archives. Et moi, je vais les monter en fonction de mon écriture. Et je travaille avec un réalisateur qui s'appelle Coy Nguyen, à qui je vais livrer un montage des interviews que je fais. Et je vais rebondir sur un mot, sur un son d'ambiance. C'est un langage à part entière pour moi. Et j'adore ça. Et je trouve que écrire sur la musique, c'est aussi jouer avec ça. Avec une introduction, avec... J'essaye d'écrire un film sonore pendant 40 à 50 minutes.
Le musée des sons.
Le musée des sons.
Le musée des sons.
Allô ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je te réveille ?
Le matin de matinalière, c'est-à-dire quand on se réveille très très tôt, ou en tout cas avant toute la maisonnée, pour ce qui me concerne, c'était 5h30, donc avant mes enfants et mon mari. Et là, le son est ton ennemi. Parce que l'idée, c'est évidemment de faire le moins de bruit possible. Donc le premier son de ma journée, il fallait qu'il soit ultra bref. C'est le son de mon réveil, que j'éteins dans la seconde, pour ne réveiller personne. Et en même temps, j'en mettais plusieurs, pour être sûr de me réveiller. Quand on est matinalier, le son, c'est l'ennemi, et l'une de mes plus grandes fiertés, c'est qu'en sortant de chez moi, donc je descendais pieds nus avec mes chaussures dans les mains, je fermais la porte le plus doucement possible, et à l'extérieur, il y a deux interrupteurs, exactement les mêmes. Celui de gauche, c'est la sonnerie, celui de droite, c'est la lumière. Ma grande angoisse pendant 6 années, ça a été d'appuyer sur la sonnerie au lieu de la lumière, et ça ne m'est jamais arrivé. Je suis très fière de ça. Le son d'une bonne idée, pour moi en ce moment en tout cas, le son d'une bonne idée, c'est quand j'entends mon réalisateur, Coy Nguyen, qui est donc réalisateur de Pop & Co, quand je l'entends se marrer devant son écran en lisant mon script. C'est-à-dire que je travaille malheureusement beaucoup dans l'urgence et il a la générosité et le talent de s'y plier parce que du coup il travaille très vite aussi et je trouve brillamment. Et quand j'entends Coy qui se marre ou qui a un petit rire sous le casque parce qu'il est surpris par ce que je viens d'écrire ou parce qu'une idée le fait marrer ou quoi, ça je sais que c'est une bonne idée. Enfin, ça me rassure. Un son de mon enfance qui n'existe plus, c'est l'habillage sonore qui avait été collé au son du Minitel quand se dévoile le visage de François Mitterrand le 10 mai 1981. Je m'explique un peu plus précisément. Le 10 mai 1981, un socialiste est arrivée en tête de l'élection présidentielle française, ce qui était un événement, dans ma famille en tout cas. Et c'était le Minitel, ce qui à l'époque, en 81, était la pointe de la technologie. Et j'ai réécouté cette archive de l'élection de Mitterrand il n'y a pas longtemps, et c'est absolument génial, parce que au moment où son visage apparaît à gros pixels sur l'écran de télé qui nous montre un écran de Minitel, il y a une espèce de tiri-li-li-li. C'est un son qu'on te fait comme si c'était un coup de baguette magique. Et ce qui est extraordinaire, c'est que derrière, t'as deux journalistes qui tirent la gueule, Étienne Moujotte et Jean-Pierre Elkabbach, qui, à mon avis, doivent avoir les boules que Mitterrand soit élu, parce qu'il n'était évidemment pas du tout de ce bord-là. Et donc, ce son de baguette magique sur les pixels du Minitel avec le visage de Mitterrand, et les deux autres derrière, qui essayent de donner le change, ce qui les trahit, c'est leur silence. C'est-à-dire qu'ils sont sous le choc. Et après, on entend Elkabbach ou Moujotte qui dit « François Mitterrand est le président de la République !» Et les mecs le répètent deux fois, comme si c'était pour se convaincre, comme s'ils se disaient « Mais c'est la vérité vraie, c'est la réalité, Mitterrand est président !» Donc cet habillage sonore qui n'existait pas, bien sûr, parce que le Minitel, il n'y avait pas ce son-là quand une image apparaît. Mais le souci qu'ont eu les mecs de la télé de mettre un truc genre de My Little Pony, en tout cas, moi, ça me fait penser à ça, sur la tête de Mitterrand qui apparaît, ben voilà, ça, c'est un son de mon enfance qui n'existe plus aujourd'hui.
5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. Nous répétons donc, estimation C2ION et Welbull, Monsieur François Mitterrand est élu président de la République.
Le meilleur générique d'émission, ce sera forcément un générique d'émission de radio, c'est le générique de Pollen de Jean-Louis Foulquier, qui était une émission musicale quotidienne sur France Inter dans les années 80, je pense. C'est le meilleur générique parce qu'on peut encore le fredonner. C'est du saxophone, c'est... Et je trouve que c'est un très bon générique parce qu'on a l'impression qu'on glisse, quoi. C'est le truc du soir. On est sur une sorte de toboggan de chaise longue, comme ça. On s'allonge. Il y a un moment où il y a une descente de notes, comme ça. C'est... On s'avachit, c'est trop bon. Et en même temps, c'est un générique aussi pour lequel j'ai de l'affection parce qu'on peut assez facilement le parodier. C'est-à-dire que c'est du saxo. Ça fait un peu... Salut. Encore un drink. Un petit côté comme ça.
J'étais seul depuis l'âge de 10 ans et que je restais en Corse.
D'autant que Jean-Louis Foulquier avait vraiment une voix patinée par la nicotine et le goudron. Il avait une très belle voix. Une voix très douce. C'est un peu une madeleine. C'est marrant parce que c'est pas forcément une émission que j'écoutais avec le plus d'attention ou qui m'intéressait le plus. Mais le générique, voilà, il est vraiment resté. Le pire générique d'émission, je penserais plutôt à de la télé. Je dirais Champs-Élysées, quoi. L'émission présentée par Drucker le samedi soir pendant les années 80. Alors encore une fois, moi j'ai grandi dans les années 80, donc forcément. Mais un truc hyper pompier, ringard, enfin c'est assez tétaille quoi. Et ce qui est terrible, c'est que le générique des victoires de la musique n'est pas très loin de ce truc. Très pompier, très... C'est assez lourd. On n'est pas dans la sensualité là, c'est... Allez, on est à ça de faire tourner les serviettes, je trouve. La meilleure voix de média, pour moi, c'est forcément une voix radiophonique. Et je vais choisir la voix de Chris.
Bon, alors moi, je m'appelle Chris. Dans la vie, je fais de la radio.
C'est quelqu'un qui n'est plus là, parce que la voix, ça reste. Et je dirais la meilleure voix de média, parce que c'est, je crois, l'une des premières voix féminines à s'être vraiment imposée avec ce timbre-là.
Et je dis dans la vie, parce que c'est vraiment dans la vie, quoi. C'est partout dans ma vie.
C'est-à-dire à l'encontre des exigences vocales qui allaient dans le sens d'une voix féminine virile qui parlait un peu comme ça. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a quand même toute une époque où la référence vocale, c'était Christine O'Krent, qui avait une voix très grave. Chris n'avait pas du tout cette voix-là.
Ça s'appelle des émissions de radio.
Elle n'a pas toujours une voix que j'ai aimée, d'ailleurs. Il y a des moments où je la trouve trop enfantine ou trop mutine, parfois un peu trop poseuse. mais elle a une voix avec un sourire au coin, 9 fois sur 10. Et ça, ça me plaît énormément. On sent qu'elle kiffe. Le son du futur, c'est la voix de Hal dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Affirmative, Dave. Parce que c'est un son d'ordinateur, évidemment. Mais le son de cette voix en VO, c'est... No, Dave, I don't. Il parle un peu comme ça. C'est ultra flippant. I think you know what the problem is just as well as I do. Je suis plutôt amie avec les nouvelles technologies. Enfin, en tout cas, je ne suis pas du tout réfractaire vis-à-vis de tout ça. Je ne sais pas quelle sera l'emprise précisément de la technologie et de l'intelligence artificielle demain. Mais j'espère que ce ne sera pas le son du futur, en fait. I know that you and Frank were planning to disconnect me. And I'm afraid that's something I cannot allow to happen. This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye. Le son du confinement, ben c'est le cliquetis d'un clavier. Hein. Pff, la purge. Ou alors, c'est le cliquetis d'un clavier. Mais c'est aussi la phrase « Allô, vous m'entendez ?» Pour ma part, je faisais des interviews depuis chez moi. Enfin, on a tous fait de la radio depuis chez soi. Et donc, moi, j'avais recours notamment à un logiciel où c'est l'interviewé qui devait prendre l'initiative du clic pour qu'on soit connecté. On se donnait une heure de rendez-vous précise. Je me mettais derrière mon ordi et le dispositif était tel que c'est la personne qui devait cliquer pour qu'on puisse converser. Et donc, pour moi, le son du confinement, c'est quelqu'un un peu inquiet qui dit « Allô, il y a quelqu'un ?» Comme s'il entrait dans une pièce. C'est vraiment l'image que je me faisais. Quelqu'un qui ouvre une porte, qui voit une pièce vide et qui dit « Il y a quelqu'un ?»
Y a-t-il quelqu'un de vivant ? Est-ce que quelqu'un m'entend ?
Le son qui me crispe le plus, alors je pense que c'est assez partagé et c'est assez cliché, mais c'est le son d'un ongle sur un tableau noir. Ça, rien que d'en parler, ça me hérisse le poil, quoi. C'est insupportable. Le son de Paris, ça va être hyper cliché parce que je suis une provinciale qui a très très longtemps rêvé de Paris. Pour moi, le son de Paris, c'était le pump du métro quand tu montes dedans, qui est un son qui me réjouissait, qui ne m'était pas du tout pénible. Je suis arrivée à Paris, j'étais ravie qu'il y ait du monde aux heures de pointe. Enfin, donc voilà, c'est ce son-là et j'étais tellement contente d'être là, dans le métro. Maintenant, j'aurais moins de scrupules. Hein. C'est fou, hein, c'est comme si je trahissais la ville, à dire moins de scrupules. Non, moins de regrets à la quitter. Je vieillis, j'aspire à d'autres choses. Le son de 2021, c'est une chanson de Feu Chatterton qui, je crois, est adaptée d'un poème de Prévert, qui fait « Compagnon des mauvais jours, je vous souhaite une bonne nuit ». J'adore cette chanson. Et pour moi, c'est 2021 parce que dans la voix d'Arthur Teboul et dans la façon dont c'est arrangé, il y a un panache là-dedans et il y a un côté collectif. Alors, évidemment, littéralement, parce que c'est compagnon, mais c'est quand même quelqu'un qui quitte la troupe. Alors, c'est l'histoire de quelqu'un qui s'en va, d'un vagabond, d'un bohème. Pour moi, cette chanson, elle est comme une accolade. Et en 2021, ben... Si, maintenant on se fait des hugs, des accolades. Donc pour moi, c'est ça le son 2021, c'est cette chanson. Tout le disque est très beau d'ailleurs. Baby, baby, baby. Le meilleur son sur le chemin du travail, c'est une chanson des Supremes, The Supremes, qui s'intitule What Did Our Love Go? Parce qu'il y a des claquements de mains, c'est sorti sur le label Motown. Et ça me met le péchon, quoi. Je marche et je m'imagine danser quand j'écoute ça. Ça me file la patate, ça me donne de l'élan. Le son de la maison de la radio, le cliquetis que fait le bouton d'ordre, c'est-à-dire que quand on est en studio et qu'on met un casque, si on veut parler à la personne qui est derrière la vitre sans que les auditeurs nous entendent, par exemple, là, imaginons qu'on diffuse un disque, eh ben j'appuierai sur le bouton du micro d'ordre pour lui dire qu'est-ce qu'on fait après, combien de temps il nous reste. Et ce cliquetis-là, pour moi, c'est le son de la maison de la radio. Un son qui me fait rire, Ça, c'est très difficile de répondre parce qu'il y a plein de sons qui ont de l'humour, mais souvent, les sons qui ont de l'humour sont les sons imprévus, les sons les plus inattendus. Donc, je pourrais parler de souvenirs de reportages, mais il y a des sons, évidemment, qui ont de l'humour, qui sont utilisés dans les Tex Avery, enfin, tous les sons de cartoon. Donc, le son qui me fait rire, c'est plus un souvenir de réplique. Par exemple, le jour où David Bowie est mort, ce qui était un jour triste, il y a un truc dans le stress et le speed de ce moment-là qui m'a fait marrer. C'est qu'on a tout de suite évidemment appelé le correspondant à Londres, qui s'appelle Franck Mathevon. La façon dont ça s'est passé, c'est qu'il a dû évidemment être pris de court par la nouvelle. La nouvelle de la mort de Bowie est arrivée à 8h-2. Il était à l'antenne à 8h-1. Donc t'as 3 minutes pour réagir. Et j'entends Marc Fauvel, qui présentait 8h, appeler Franck en direct, tout ça. Il lui dit « Oui, alors, Franck, on vient d'apprendre la mort de David Bowie il y a 5 minutes. » Et Franck, avant de commencer à parler, a dit très naturellement « Oui, enfin, il y a 5 minutes, il y a plutôt une minute. » Et ça, j'étais en studio à ce moment-là où je devais aussi réagir en direct. Donc, et ça, ça m'a vraiment fait marrer parce que je l'imaginais chez lui, coiffé comme un dessous de bras en caleçon, à essayer de se dire « Ok, alors attends, David Bowie, né en truc, les albums, les trucs. » Et ça, c'est un souvenir radiophonique relativement récent qui m'a fait rire sur le moment parce que c'était... parce que je l'ai imaginé chez lui, au réveil, et parce que c'était un moment à la fois triste et stressant. Un son qui me fait pleurer, c'est la voix de mon père, qui est mort il y a un peu plus de 3 ans. Une fois, en rangeant ma bibliothèque sonore sur mon ordinateur, sa voix a surgi d'un coup comme ça, sans que je m'y attende, je ne savais pas qu'elle était là. Et j'ai arrêté tout de suite d'ailleurs, parce que j'étais pas du tout prête à l'entendre. Évidemment, ça me fait pleurer d'émotion, parce qu'il avait une très belle voix. Et puis c'était un message qu'il laissait pour une de mes filles, alors que mon père au téléphone, c'était plutôt « ouais ». Ah oui, c'est sûr. Enfin, il n'était pas très loquace. Voilà, ça m'émeut beaucoup. Et aussi parce que c'était un moment très particulier, c'est... Une voix qui surgit, c'est un corps tout entier qui arrive, quoi. C'est fou. Tellement ça incarne les gens. Cette voix, elle est sortie de mon ordinateur comme le génie de la lampe d'Aladin. Ça m'a bouleversée, évidemment. Un son qui a marqué ma vie et que je n'ai pas déjà cité. Un vieux jingle de France Inter. Tom, 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 ta-dam, ta-dam, ta-dam. Parce que j'adore les jingles et l'histoire des jingles. Je trouve que ça raconte un moment, ça raconte une époque. Et les jingles radiophoniques, c'est fou à quel point ça peut scander la vie des gens. C'est diffusé toutes les heures, donc c'est bien pour ça que RTL n'a pas changé le sien depuis 50 ans, quoi. RTL, c'est ta-ta-ta-ta-ta, inventé par Michel Legrand, et ce sera comme ça pour toujours. Mais les jingles de France Inter ont une histoire, ils ont vraiment changé, et d'ailleurs, ils vont bientôt changer à nouveau. Et je trouve ça fascinant. Et celui que je viens de fredonner maladroitement, c'est vraiment le jingle du moment où j'ai le plus écouté la radio. Il n'y a pas de régularité fixée. Je pense que le jingle est frappé d'une date de péremption. Un jingle peut durer très longtemps, mais elle évolue. Une grille des programmes, une radio, elle évolue en fonction de l'époque. On ne parle pas de la même façon, on n'a plus le même ton, on ne diffuse plus la même musique. Donc la texture sonore, les textures de son ne sont plus les mêmes non plus. Et un jingle doit raconter tout ça, en fait. Et pour moi, ce jingle-là, c'est vraiment mon adolescence, quoi. Enfin, mon enfance même. On écoutait énormément la radio chez moi, il y avait un poste dans toutes les pièces. Donc ce jingle, j'en ai bouffé, quoi. Le son à envoyer dans l'espace pour leur présenter l'humanité, c'est le début de La Traviata. Alors, pardon à tous les grands connaisseurs d'opéra, parce que je suis d'une ignorance crasse en la matière. Mais La Traviata, on l'a beaucoup écouté chez moi, ma grand-mère italienne notamment. Et il y a tout un passage, au début, où ils font la fête, bien sûr, et ils lèvent leur verre. Et là, ils chantent tous « Libiamo, Libiamo !» Ça, génial. Voilà, ce passage de la Traviata, après, choisissez l'interprète qui vous convient. Mais ça présente l'humanité. la fête, le vin, la voix, la musique, l'Italie. Le son qui me fait aller mieux, c'est une chanson en italien. À la fois, ça me fait aller mieux et en même temps, ça peut vraiment m'effondrer, en fait. C'est une chanson d'un chanteur, d'un des plus grands chanteurs italiens, selon moi, qui est mort d'ailleurs maintenant, qui s'appelle Lucio Battisti. Et cette chanson, elle s'intitule « E penso a te ». Et je pense à toi. Ce sont des paroles très simples, où c'est un homme qui dit à une femme ou à un homme, en tout cas à quelqu'un, qui pense à lui ou à elle tout le temps, quoi qu'il fasse. Il met même des bribes de conversation et je pense à toi. Déjà, c'est de l'italien. Moi, toute la famille de mon père était italienne, donc ça me touche, alors que je parle pas italien, bêtement. Je le regrette. La façon dont Lucio Battisti chante, c'est quasiment un murmure au début. Le type a le cœur dans ta main et il appuie, quoi. Ça me bouleverse par la façon dont il le dit. Il le dit à peine, sur la pointe des pieds, et en même temps on a l'impression qu'il peut pas faire autrement que de le dire quand il chante. Voilà, c'est ça. Et à un moment de la chanson, il y a un chœur. Rien que d'en parler, tu vois, ça me fout la chair de poule. Il y a un chœur qui se met à chanter. Pa-ra-ra-ra-ram, pa-ram. Un truc collectif comme ça. Ça arrive d'un coup, ça me fait aller mieux et ça m'attriste en même temps. Le son qui me définit le mieux, c'est celui de ma voix, avec ce que j'en maîtrise et surtout ce que j'en maîtrise pas. Et des fois, ce qu'on maîtrise pas, on se dit putain. Bon, donc moi, j'ai eu avec quelqu'un qui fait de la radio et qui a vraiment des oreilles ultra affûtées, qui va me dire ouais, mais là, t'as vu comme tu parles, tu présentes un concert, mais là, t'as trop forcé, truc. Ça me démonte. Parce que 9 fois sur 10, il a raison. Ça me fait vraiment chier. Je me dis, ah, mais là, voilà. Là, on a senti que t'étais stressé, on a senti que t'étais fatigué. La fatigue, ça s'entend. Des fois, c'est bien la fatigue parce qu'on lâche prise. Et puis, il y a des moments, au-delà d'un certain seuil, c'est plus très constructif, quoi. Donc, on peut entendre qu'on est fatigué, on peut entendre, à la limite, d'être mal à l'aise. Pourquoi pas ? Ça peut être touchant d'être mal à l'aise. On peut entendre qu'on prend la pause. Ça, c'est plus problématique. En tout cas, moi, je l'entends chez des gens que je connais même un tout petit peu. Tu sens tout de suite, quoi. Et ça, c'est... Je suis évidemment pas du tout à l'abri de ça, hein, mais... La voix, c'est tout. Ça... C'est le corps tout entier, la voix. Et le son, pour finir, un podcast en beauté, ce serait du silence. Parce que le silence, c'est un luxe aujourd'hui. Tout est sonorisé. Il y a des moments, c'est vraiment pesant. Souvent avec de la très mauvaise musique, quand même. Je suis passée dans un endroit cet été, par exemple, où il y avait de la musique tout le temps, comme si les gens avaient besoin de remplir le vide, comme si le silence était totalement insupportable. Donc le silence est un luxe. Et je trouve que c'est vachement beau, le silence à la radio. Moi, j'en ai joué plusieurs fois. Enfin, je me suis amusée plusieurs fois avec ça, parce que c'est très déstabilisant. Et c'est bien de le choyer, de le ménager. Donc, 4 secondes de silence. Voilà.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.